Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International sur la Radio Mondiale, où aujourd'hui nous reviendrons évidemment et nous poursuivrons sur la Ligue des Champions. Avec deux clubs français ce soir en piste, les Parisiens face aux Colchoneros, et s'ils veulent enfin l'emporter, les joueurs du PSG vont devoir être cliniques, alors que les Bretons, eux, tenteront à Prague de se rapprocher des huitièmes de finale. Ceux qui s'en sont rapprochés hier soir, les Monégasques après leur victoire à l'arraché à Bologne, et puis les Lillois qui ont obtenu le nul face au Bianconeri de Turin. Les clubs français pas ridicules du tout sur la scène européenne. Rien ne va plus en revanche à Madrid, le Real sévèrement battu à Bernabeu par le Milan AC. Quelles solutions, quelles alternatives pour ces merengues? Et puis une claque aussi pour les Citizens qui enchaînent une troisième défaite, cette fois battue à Lisbonne par le Sporting. Est-ce l'usure pour Pep Guardiola et ses joueurs? C'est une question à laquelle je suis sûre que Bruno Constant a la réponse. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Hein, j'espère l'avoir, je ne sais pas.
Vous avez 40 minutes à peu près.
C'est vrai?
Penser, oui.
Je ne sais pas si ça suffira.
On va voir, oui, parce qu'on ne vous laissera pas tranquille. À vos côtés, il y a Eric Rabessandratana, pas inquiet, je le sais.
Non,
le jour où
jamais,
joue le Paris Saint-Germain,
absolument.
Il n'est jamais inquiet, c'est après.
Évidemment. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Eric.
Oui,
confiant
non,
même.
Non, je ne suis pas confiant. Je méfie de cette équipe de l'Atletico qui est véritablement chiante à jouer. Et du coup,
comment vous parlez?
Pardon. Je n'avais pas trouvé, j'ai pas trouvé d'autres mots. Et donc, du coup, c'est pour ça que étant donné que le Paris Saint-Germain a quand même du mal offensivement à convertir les actions qu'il se crée.
Ah bon?
Du coup, contre une équipe qui défend bien comme ça, ça peut être très casse-pied.
Non, mais on va y venir à cela. Et puis, il y a Ludovic Duchesne. Bonjour Ludovic.
Bonjour à tous et à tous. Très content de parler football.
Oui, bah nous aussi, oui.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui. Mono sujet. Dans ce studio, ça nous change un peu. Pierre Guérin et David Finzel m'ont aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. Forte pression donc sur le PSG ce soir au Parc des Princes, où en Ligue des Champions, les Parisiens reçoivent l'Atlético de Madrid. Sous pression, les hommes de Luis Enrique, car ils pointent après leurs trois premiers matchs. Très loin des 8 premiers automatiquement qualifiés pour les 8e de finale. Ils sont, à cette heure, puisque certains ont joué et d'autres pas, 23e sur 36.
Ils sont dedans, avec optimiste. Ils sont dedans, ne vous inquiétez pas.
Oui, sur les 24 qui peuvent avoir encore 24. Une chance. Pauvre bilan, une seule victoire, une défaite et un nul. Et surtout, seulement 2 buts inscrits. Ce qui souligne, c'est ce qu'on disait déjà, Eric, la maladresse criante des attaquants de cette équipe. Alors, leur chance ce soir sera-t-elle de jouer contre l'Atlético, qui, certes, se redresse en Liga, mais qui est derrière eux. Eux, ils n'y sont pas.
Vrai.
Ils sont 28e du classement à cette heure, et avec 2 défaites, on se souvient de celle de Lille notamment, pour une seule victoire. Les supporters de la Peña Rojiblanca, ce groupe de fans parisiens des Colchoneros, posent un regard lucide, vous allez l'entendre, sur les adversaires de cette rencontre, donc sur les Parisiens. Et c'est au micro de notre reporter Timéo Guillon.
Bah, sur le papier, ça me paraît équilibré. Ils ont besoin de points chacun dans cette Champions. Donc à mon avis, ça va jouer, j'espère. C'est très difficile de savoir qui va l'emporter si quelqu'un gagne ce match d'ailleurs. C'est vraiment pas sûr.
J'ai un peu peur, je vous avoue. Je ne suis pas le plus serein. Je suis quasi sûr qu'on peut quand même faire un résultat. Je vois bien gagner 2-1 ou sinon faire match nul. Mais j'espère ne pas perdre, en tout cas je ne vois pas perdre.
Je pense que ça va être compliqué en défense, parce qu'il y a pas mal d'absents, surtout le Normand. En soi, c'est la Champions League et le PSG, ils ont des faiblesses, donc ça peut se jouer.
Je pense que le combat au milieu de terrain va être vachement important. Si les joueurs de l'Atlético, notamment De Paul ou Gallagher, sont dans un bon jour, peut-être que physiquement et en termes d'impact physique, peut dominer le milieu du Paris Saint-Germain, et à mon avis, c'est là que ça va se jouer.
Timéo Guillon qui est allé à la rencontre de ses supporters hier soir devant l'hôtel parisien des Colchoneros. Alors c'est un petit groupe, hein, ils sont une trentaine à Paris, mais ils se retrouvent notamment pour suivre les matchs ensemble. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article signé justement de Timéo sur le site RFI.fr. Leur président s'appelle Rodolphe et hier, eh bien, ils font bien les choses, les Colchoneros. Ils ont reçu c'est un groupe de supporters et il y avait Antoine Griezmann et Clément Langlais. Je trouve que hein, c'est tellement rare les clubs qui font ça, avec le supporter. Bravo Timéo, c'était bien vu. En tout cas, est-ce que selon vous, alors on va reprendre un peu ce que vous disiez dans les, dès les titres, Eric, est-ce que c'est une chance pour le Paris Saint-Germain de se retrouver face à l'Atlético ou pas?
Non, mais on ne peut pas dire que c'est une chance, surtout que l'Atlético n'est pas bien dans, dans ses qualifications. C'est pour ça que c'est encore plus difficile pour le
C'est-à-dire que les deux le jouent gros.
Exactement. Mmh. Et là, c'est vraiment un match à enjeu. C'est un match où il ne faut pas...
ça commence à s'élever.
Faut pas rater
le coach.
Les Parisiens ont vraiment besoin de points et évidemment l'Atlético aussi. Donc, le problème qui perdure un peu trop du côté parisien, c'est que tu te crées énormément d'occasions, mais tu ne les mets pas au fond, ou tu n'en mets qu'une, ou tu en mets beaucoup moins qu'au début de saison. Et du coup, là, il y a une vraie inquiétude parce que la Ligue des Champions, il y a en face, c'est des vraies oppositions.
Comment on dit, quand tu ne marques pas, t'encaisses.
Non, mais c'est surtout que là, il ne faut pas avoir 50 000 occasions. En fait, pourtant, même une seule devrait suffire, mais il faut être chirurgical.
Eric,
et
le problème, c'est que on nous avait dit qu'il y avait plein de buteurs, que chacun marquait 12
mais
buts.
Mais ils peuvent,
sauf que la succession de Mbappé était assurée depuis l'année dernière.
Étonnant.
Mais attendez.
Non, après, avec Ramos, ça aurait été différent.
Petite parenthèse quand même, Mbappé, il était là à la phase de poule l'année dernière.
Et c'était
le
déjà
PSG était bon.
Difficile. Hein.
C'est vrai. Le PSG était bon.
Pas série crack.
C'est vrai, c'est difficile.
Ils ont pas été bons, on est d'accord.
Pas série crack.
Ah, mais ils sont passés.
Non, il peut pas tout faire, mais lui marquait au moins, c'était la différence.
Non, mais il y a pas de victoire. Dans les 8, j'ai du mal à y croire, vraiment, parce que il y a trop de lacunes.
De toute façon, ils n'avaient pas le niveau. Ils n'avaient pas le niveau pour y être.
Non, c'est vrai.
Si on se base sur la saison passée, la phase de poule des champions, ils étaient 14e sur la phase de poule. Donc de toute façon, ils n'étaient pas dans les 8.
Non, mais c'est pour ça que je dis.
Et ils vont en demi-finale. Ils vont jusqu'en.
Et ils vont jusqu'en demi-finale.
Contre Dortmund.
C'est deux compétitions, de toute façon, la phase de poule.
Mais là, Luis Enrique, il a joué 9 matchs avec le Paris Saint-Germain, en tant qu'entraîneur, évidemment. Ils en ont gagné que 3.
Cette saison.
Non, avec la dernière.
En phase de poule.
Uniquement européen.
Donc ça devient très inquiétant. Et les 3 premiers matchs de cette saison sont encore plus inquiétant. On voit des belles choses en Ligue 1, mais voilà, le niveau supérieur, ça n'est pas... Non, il y a des belles choses. Là, contre Lens, ils ont fait un bon match. Mais l'Atlético, c'est pas Lens. Et je trouve qu'il y a des grosses différences. Et il faut élever son niveau de jeu. Et malheureusement, il faut qu'à un moment donné, des joueurs fassent la différence. Parce que on a voulu nous vendre une équipe, et moi j'en ai marre qu'on nous raconte que cette année c'est une équipe.
Ou alors c'est une équipe
qui ne va pas finir dans les 24 et qui va même pas se qualifier. Il y avait une équipe l'année dernière aussi, ils ont été en demi-finale. Mais cette année, il n'y a personne pour faire des différences pour l'instant en Ligue des Champions. Et c'est bien le problème de ce Paris Saint-Germain. 3 matchs extrêmement laborieux.
Moi, je ne suis pas d'accord. Le match du PSG, ce n'était pas un match laborieux. Ils doivent gagner largement, sauf qu'il manque juste d'efficacité. Donc, les différences, ils les font.
Non, mais juste l'efficacité, quand même.
Non, mais l'efficacité, devant le but.
Trois matchs, ils n'ont qu'une seule
victoire. Oui, mais l'efficacité devant le but, ce n'est pas ne pas faire la différence. Les différences, ils les font. Par Barcola, par Dembélé, leur jeu est basé sur les côtés. Il ne faut pas oublier aussi rappeler que la blessure de Gonzalo Ramos, qui était appelé à titulaire en pointe, c'est quand même un gros coup dur.
C'était ton seul
attaquant. Il y a plein d'équipes qui ont des blessés.
C'est un vrai buteur. Donc,
mais il ne le faisait pas jouer l'an dernier.
Après, moi, je pense qu'il peut y avoir aussi des déclics. Et quand on joue un grand d'Europe ou supposé comme l'Atlético, ça peut débloquer quelque chose dans les têtes. Ça reste un groupe très, très jeune, le PSG. Ça a été rajeuni, peut-être trop, sans doute trop. Donc, on est obligé de leur demander ou ils sont obligés de réclamer du temps. Et en Ligue des Champions, on n'en a pas. Et peut-être que ce match-là va débloquer des joueurs comme Barcola, qu'on peut encore marquer.
Et qui
manque pas grand chose parce que les Neves et Barcola, ils ont un talent fou en fait.
Moi je dis attention à l'accident industriel. Moi je trouve qu'ils ont eu des matchs plutôt abordables en début, là ils les ont ratés. Là maintenant ils vont jouer l'Atlético, le Bayern, Manchester City, Stuttgart.
Ils ont raté le PSV, en termes de résultats.
Non, Gérone c'était catastrophique.
Mais en termes de points, ils les ont les points.
Arsenal, qui a marqué au PSG, Nuno Mendes en centrant et Hakimi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui est capable de marquer un but en Ligue des Champions aujourd'hui.
Du coup, en termes de résultats, ils ont raté qu'un match. À Arsenal, je suis désolé, Arsenal était favori, Arsenal était au-dessus, deuxième de première ligue.
Mais t'es pas obligé d'être mauvais. Bruno, tu peux rivaliser.
C'est pas une honte de perdre sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions. Il n'y a pas de honte.
Après, je suis
d'accord avec toi, c'est que ce match-là, il est déjà déterminant parce qu'après, ils vont à Munich affronter le Bayern. Ils affronteront Manchester City en janvier.
Oui, bah, ils sont pas bien, Manchester City. Non, mais
et Stuttgart.
Donc, faut prendre des points. Et j'ai Stuttgart pour finir.
Ouais, c'est un morceau un peu compliqué, en fait.
De toute façon, s'ils montrent pas autre chose. S'ils montrent pas autre chose, les Parisiens, très clairement, ils n'iront pas plus loin.
Quelle est la ressource pour le chemin de l'efficacité? Parce que c'est ça le vrai le problème du Paris Saint-Germain.
Mettre un vrai neuf.
Le plus dur, bah déjà, Randall, le pauvre, est quand même condamné complètement depuis quatre matchs. Donc c'est très compliqué pour lui. Là, il va avoir une soupape avec l'équipe de France qui arrive derrière, donc ça va lui faire du bien. Mais en dehors de ça, il est complètement condamné. Ramos, il va revenir au mois de fin novembre,
début décembre. Ouais.
Donc et puis on peut pas attendre énormément de lui parce que quand tu reprends il faut un certain temps donc Asensio, bah, le problème c'est toujours pareil, c'est que c'est pour les mêmes fonds.
Je vous pose la question.
En efficacité.
Est-ce que à l'entraînement vous le savez si ils ne font que ça?
C'est la répétition, c'est le plus dur, c'est de garder l'état d'esprit. Bah j'imagine qu'ils le font quand même. S'ils le font pas, ce serait quand même catastrophique. Non, je pense qu'ils le font. Je vois pas pourquoi ils le feraient pas. En plus, en tant que ancien attaquant Henrique, j'imagine bien qu'il les fait travailler offensivement et qu'il a des idées. Sauf que il est aussi dépendant de joueurs qui sont pas capables de Dembélé. Dembélé, il a les pieds en X.
Il a des qualités extraordinaires. Il le connaît depuis.
Mais il le sait parce qu'il y croit. Et à un moment donné, peut-être qu'il va mourir avec ses idées. C'est un peu.
Mais il joue sans avançant. Et ça, il le veut. C'est son schéma de jeu.
Moi, ça me dérange pas qu'il joue. Moi, qui joue sans avançant, ça me dérange pas.
Non, c'est faux. Ta première journée, premier match de la saison, qui avance entre PSG?
T'as un meilleur. Tu vas venir Colomani.
C'est Ramos, d'accord.
Aujourd'hui, t'en as un. Oui, mais... C'est Colomani, il joue pas.
Donc si c'est pour mettre des joueurs qui sont pas le numéro 9.
Non mais c'est une philosophie.
Je suis d'accord, il devrait faire jouer Colomani. Parfois, pour amener du chaos, il faudrait mettre Colomani.
Au moins, c'est un attaquant.
Non, puis il y a aussi de la fraîche. Enfin, Colomani, il a ce que les autres n'ont pas, c'est qu'il a une espèce d'inconscience quand il joue. Il est un peu inconscient de ce qui l'entoure. On le voit avec l'équipe de France, alors qu'il devrait être sous pression, ça le libère. Et parfois au PSG, on aimerait le mettre, on aimerait le voir, parce qu'il peut amener un peu du chaos, un peu de folie.
Oui.
Il ne va pas réfléchir, c'est quelqu'un qui ne va pas réfléchir et qui peut amener cette efficacité pour le coup.
Non, mais là, je suis
d'accord. Et là, effectivement, je comprends pas, tu peux tourner le truc dans tous les sens.
Lee, c'est pas un buteur. Et Asensio, c'est plus un 9,5.
C'est plus un 9,5,
c'est déjà mieux. Mais ça veut dire qu'il se prive de ça. Mais comme le fait Arteta, comme le fait Guardiola, voilà, c'est des entraîneurs qui ont une philosophie de jeu.
Mais après, les milieux ont aussi le droit de marquer.
Ils jouent sans 9.
Il y a beaucoup d'équipes où les milieux.
Vitinha ne marque pas.
Fabien Ruiz, c'est l'ombre de lui-même par rapport à l'Euro et l'Espagne. Les milieux aussi ont le droit de marquer au PSG. Et oui, pour l'instant, ils ne sont pas assez performants.
Le problème, c'est que si tu n'as pas ton joueur qui marque.
Le seul qui est marqué, c'est Hakimi.
C'est vrai. Et Hakimi a encore des actions tout le temps dans tous les matchs.
Après, Barcola marque en Ligue 1, par exemple.
Mais oui,
il marque beaucoup en Ligue 1.
Là, on parle de Ligue des Champions.
Non, mais du coup, c'est un déclic.
Le niveau est quand même différent de la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain.
Oui, mais du coup, c'est
toujours d'un truc qui n'avait pas d'adversité.
Mais ce n'est pas un problème de qualité. C'est un problème de juste se débloquer de ce côté-là.
Ouais, bon.
C'est un problème de donner les meilleures chances à ton équipe, peut-être, de s'imposer ou de marquer. Ce que ne fait pas Luis Enrique, parce qu'il ne croit pas en ça. C'est pas sa philosophie. Il met pas l'avant-centre. Il nous met un gars qui est pas du tout avant-centre, qui est Lee, qui est perdu en Ligue des Champions. Voilà. Et qui arrive à faire des choses en championnat. Mais quand il est, et d'ailleurs, c'en est drôle, quand il est en Ligue des Champions, mais tu l'es perdu, le gars. Il sait pas son truc. Il court partout, mais il court pas où il faut.
Et surtout, il marque pas. Je crois sincèrement vraiment à ce que propose Enrique. Ça peut paraître fou, mais je reste persuadé que.
T'es pas tout seul.
Mais c'est vrai, je te jure, je reste persuadé que, voilà, c'est qu'une question de confiance, c'est qu'une question de peut-être de temps en temps de réussite, peut-être de. Mais. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils proposent, parce que moi, ça me plaît,
c'est l'efficacité criante.
On est complètement d'accord. C'est pour ça que, je me dis, en espérant que ça change ce soir et que quelqu'un se réveille et que. Mais j'espère aussi qu'on va y réfléchir à l'idée à la trêve hivernale, parce qu'il y a quand même une.
Mais non, mais il veut pas.
Cédric de Oliveira, en tout cas, notre confrère du service des sports, sera au parc ce soir. Et donc, vous pourrez l'entendre sur l'antenne pour faire les points et parler de ce match. Cette quatrième journée pourrait être une aubaine pour les Dauphins du Paris Saint-Germain l'an dernier, les Bretons qui se sont pris au jeu de cette Coupe européenne où ils sont totalement novices, eux, et surtout, ils ont marqué les points quand il fallait, finalement, quand l'équipe était à leur portée. Ils sont septième, hein, c'est bien loin de la 23e place, avec deux victoires et surtout zéro défaite. Ce soir, ils joueront à Prague, alors c'est contre le Sparta, le club du Magna, de la presse tchèque, qu'on connaît bien en France, Daniel Kretinsky. Et Éric Roy, l'entraîneur des Bretons, reste plein d'espoir, avec plus ou moins de pression.
En réalité, on peut déjà considérer que notre parcours, il est réussi. Je veux dire, on nous promettait, pas un zéro pointé, mais beaucoup nous voyaient en grande difficulté et être difficilement capable de pouvoir exister dans cette compétition. Donc à partir de là, c'est déjà une grande réussite. Maintenant, il est évident que la pression, on garde cette même pression parce que du coup, on a l'appétit venant en mangeant, comme on dit. On a envie de continuer à performer. Donc non, la pression, elle est là et je trouve que c'est bien. La pression, elle est importante. Il faut savoir s'en servir. Et demain, il faudra le faire parce qu'on sait que cette équipe, elle va nous rentrer dedans et que ça va être un vrai match. Donc on s'attend effectivement à une grosse opposition.
L'appétit vient en mangeant, nous dit-il, Éric Roy. Alors, ils ont des petits moyens, ce Stade de Brest, mais finalement, ils jouent le jeu et en plus, ils sont plaisants à regarder et même à encourager, Bruno.
Ah oui, complètement. C'est le vent d'air frais sur cette Ligue des Champions, le petit Pousset qui brille.
Les Gaulois,
qui jouent comme des grands.
Le village gaulois.
Non, mais puis qui jouent comme des grands parce qu'ils saisissent la moindre opportunité. Il y a eu effectivement un début de compétition qui les avantageait un petit peu parce que c'est des équipes. Peut-être les plus faibles équipes qu'ils allaient rencontrer, mais ça reste des grosses équipes pour Brest. Ouais, donc il fallait les gagner.
Et ils l'ont fait. Là, ils avaient peut-être la pression, c'est-à-dire si on veut marquer des points, c'est
match,
là.
Oui, mais je ne suis même pas sûr qu'ils avaient de la pression parce qu'ils savaient très bien que ce n'est pas leur compétition pour eux. Voilà, ils vont prendre tout ce qu'il y a à prendre, c'est des bonus. Moi, ce que j'ai aimé d'autant plus, c'est le match contre Leverkusen, où ils auraient pu être impressionnés parce que le Bayern, c'est le premier grand nom.
Champion d'Allemagne.
Qui vient leur rendre visite, ils ne jouent pas chez eux, en plus Brest. En premier temps, c'est un peu compliqué. Et en deuxième, ils lâchent les chevaux. Il commence à leur rentrer dedans et à prendre l'ascendant. Et c'est ça qui me bluffe parce que le but de Lesmelou, c'est un culot monstre. Mais s'il ne tente pas ça, jamais il peut marquer ce but-là. Et en fait, ils tentent. Ils ont un culot monstre et ça passe. Donc ça, c'est bluffant.
Mais Annie,
ça
fait du bien. On a reproché.
Non, ils ont des joueurs qui ne sont pas profil Ligue des Champions. Enfin, je veux dire, c'est à genre.
Pas du tout.
Mais aucun.
Et c'est génial.
Et en plus, beaucoup de joueurs comme Sima, ça, qu'ils ont recruté au dernier moment parce que Grégory Lorenzi, il a bataillé parce qu'ils
ont perdu des joueurs importants.
Mais
en plus,
oui, avec le championnat, il faut. Oui, comme Steve Mounier, comme d'autres. Mais avec le championnat, il faut jouer la Ligue des Champions. C'est nouveau. Et on a tellement reproché aux clubs français de ne pas jouer ces compétitions, d'être ridicules la première année. Que eux, ils y vont et
ils osent.
Sans aucune appréhension. Ouais. Moi, je trouve ça et moi, ils me bluffent totalement. Ouais. Moi, contre Leverkusen, j'aurais pas mis un euro sur le stade brestois. Et en plus, Bruno l'a dit, ils jouent pas dans leur stade. Non, mais c'est exceptionnel, plus, c'est une épopée. S'ils vont en 16e, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que on parlera de Monaco. Lille a encore fait un match magnifique hier. Le seul club qui est pas, et c'est drôle de le dire, mais c'est le Paris Saint-Germain. Quand tu vois les trois autres clubs, ils font honneur au football français, à la Ligue 1, mais pas sauf le PSG.
Oui, c'est ce qui est amusant d'ailleurs, c'est-à-dire de tous ces clubs français, le premier sur lequel on misait depuis une dizaine d'années, c'est évidemment le PSG qui avait l'expérience. Et finalement, cette année, les cartes sont rebattues. Et bon, Monaco, on va en parler évidemment, mais c'est très intéressant. En tout cas, est-ce que, selon vous, Eric, ils peuvent déjà rêver de huitième de finale?
J'espère bien. S'ils ne se sont pas mis ça en tête, ça m'inquiéterait quand même.
S'ils gagnent ce soir, ils y sont.
Si c'est pas des compétiteurs,
c'est ça que je veux dire.
Bien sûr.
Les huitièmes et les barrages. Mais
il faut jouer ce match pour justement aller.
Ça fait partie des matchs qui sont un peu à leur portée. Parce qu'évidemment, contre le Real ou contre d'autres,
ils vont rien changer en fait. Parce qu'en fait, ils vont. Non, mais c'est vrai, ils vont jouer. C'est un peu, on disait tout à l'heure, mais le visage de cette équipe de Brest, il correspond au visage d'Éric Roy. C'est-à-dire que c'était sur le terrain, c'était une teigne. J'étais pas fan du joueur et tout ça, mais c'était un très bon joueur, qui lâchait rien et en fait cette équipe de Brest elle est à son image. Et derrière ils sont ils exploitent leur qualité sans se prendre la tête, en se disant de toute façon on n'est pas attendu, donc du coup derrière vous avez quand même beaucoup plus de liberté quand vous jouez et vous tentez certainement beaucoup plus de choses. Ils sont plus à l'aise, quoi.
Le match de ce soir, pour moi, il est capital parce que s'ils gagnent, ils sont en barrage et assurés au moins de faire les barrages. Mais s'ils le gagnent pas, moi, j'ai peur que petit à petit, ça va douter. Parce qu'après, il y a du gros morceau. Hein. Le Barça et le Real, honnêtement, c'est très compliqué. En fait, d'autant que le Barça et le Real sont dans les situations où, surtout le Real, ils vont devoir prendre des points et pas lâcher ces points-là. Le PSV, je crois qu'il joue au PSV en plus.
Ouais, je crois.
Où ça va être très compliqué. Et en plus, après, c'est le Shakhtar.
C'est en dessous de son championnat.
Mais ils peuvent aussi finir avec 0 points sur les 4 dernières journées. Et là, on se dira,
oui.
Mince.
Ah oui, déjà, on n'aurait pas parié qu'ils auraient 7 points comme ça.
Mais là, quand ils ont. Ça suffit pas, tu crois pas ?
Ouais, 7, j'ai peur, c'est trop juste.
Non, mais ce soir, ils sont vraiment capables au moins de faire match nul. Mais cette équipe, elle est l'image de son entraîneur. Franchement, qui aurait dit que quand Éric Roy a repris Brest, franchement, beaucoup ont rigolé. Mmh. Ils se sont dit, attends, le gars, ça fait 11 ans qu'il mais est plus entraîneur.
En cours de saison.
En janvier 2023, ouais. Il est arrivé. Comment on peut espérer que... Mais ce qu'il fait, c'est qu'il fait des miracles tout le temps. Ils ont un budget ridicule, ils ne jouent pas dans leur stade.
Non,
ceux qui connaissent le stade de Brest, c'est limite pas un stade de foot. Ouais. Enfin, franchement, je veux dire, ils ont pas d'installation. Ils changent pour s'entraîner. Ils changent de lieu d'entraînement tous les matins. C'est juste... Ce qu'il fait avec Grégory Lorenzi, qui est un personnage central vraiment dans ce que fait Brest depuis plusieurs années, c'est incroyable. Avec des joueurs qui sont quand même des joueurs plutôt, je suis désolé, mais plutôt moyens, bon, sûr. Parce que quand même. Ouais. Mais il arrive
mais
à faire...
Mais qui correspondent.
Voilà. Mais oui, les Les Lesmelou, mais... les Del Castillo, les Lala, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Lala. Le défenseur, comment il s'appelle, le défenseur central... le capitaine, bon, ça va me revenir.
Chardonnay.
Voilà, c'est des joueurs qui sont qui ont beaucoup de mérite et ils sont dans une aventure incroyable. Moi, je pense qu'ils vont aller au bout. Attention, pas avec des champions, non, mais au moins des 16e.
Non,
pour aller
en 16e, ils vont exploser le Real.
Qui sait ?
Alors,
on y viendra.
Attention.
Bon, en tout cas, ça sera donc ce soir, ces matchs. Il y a, il y a encore 9 matchs ce soir, donc il y a de quoi se régaler et notamment le spectacle offert par les Français. Ils ont d'ailleurs continué à garder des chances, les clubs français, dès hier soir, de poursuivre cette aventure européenne.
Allez, le corner de l'espoir pour l'AS Monaco. Frappé à la retombée. Après 4 matchs pour Monaco, les playoffs sont quasiment déjà assurés.
Zegrova, il est passé, il fait le tour de cavale. Zegrova qui emmène le ballon.
Faites lucide.
Oui, il a lancé Jonathan David. David dans la surface de réparation. Jonathan David.
Lille conquiert fièrement ce point. Un joli point gagné par le LOSC face à la Juve. C'est un bon point dans la course à la qualification pour les 16e de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, un but du défenseur monégasque, ancien Titi parisien, n'est-ce pas,
oui,
Eric
Franchement, non, mais je suis content de le voir jouer comme ça parce que à Paris, c'était un
comme beaucoup.
C'était un paramètre difficile pour lui. Mais à Monaco, il n'a pas de pression, il joue tranquille.
Il y a beaucoup de joueurs qui on a cru disparus et disparaître.
Les Parisiens sont souvent meilleurs quand ils ne sont plus au PSG.
Exactement.
C'est un bon joueur, il fait aussi des bons matchs au PSG.
Il y a une pression particulière à Paris. Si tu n'es pas capable de la gérer, franchement,
tout
c'est compliqué.
Tout le monde n'est pas Eric Rabessandrata.
Non, mais après, il faut être capable de faire abstraction. Non, mais c'est vrai.
Bibar,
franchement, il y a un climat qui est là, ça va être encore pire aujourd'hui, je trouve.
En tout cas, Thilo Kehrer, il a marqué à la 87e minute. C'était à Bologne.
Un but d'attaquant, en plus.
Non, mais c'est incroyable. Pour un défenseur, je suis d'accord. Et en plus, cette jolie action, alors là, on est à Lille avec le dog Jonathan David, évidemment, avec cette passe incroyable de Zegrova, là. Et voilà, les 3 points donc pour les joueurs du Rocher et le nul pour le LOSC face à la Juventus. Commençons par Monaco. Bravo, Monaco, invaincu dans cette compétition, incroyable. Qui à 7 heures est 3e du classement des équipes européennes. Et le sauveur, eh bien, on va l'entendre, votre Titi parisien.
Bien sûr.
Hein,
il parle
on a envie
très bien
d'entendre.
Français, ouais.
Buteur extrêmement
très bien. Intelligent.
Ouais. Ce qui a fait la différence, je pense l'unité, c'est l'équipe, le travail ensemble. Parce que voilà, on a manqué un peu ça les derniers deux matchs. Aujourd'hui, on l'a montré. Et on est allé chercher la victoire avec détermination. On a eu beaucoup de coups de parité. Ils l'ont bien défendu, mais on a senti qu'il y a une possibilité de marquer. Et heureusement, il y a Brel qui dévie un peu la balle et j'étais là pour anticiper. Je l'ai bien pris et je suis très content pour le but et pour la victoire. On a 10 points, on est content pour ça. C'est vraiment, vraiment un bon début de cette Ligue des Champions pour nous. On espère continuer comme ça.
Bah continuer, évidemment, on leur souhaite aussi.
Ah bah oui.
Ils ont un petit coup de moins bien en championnat. Là, ils se sont fait un peu doubler. Surprendre ce
comme
week-end.
Comme quoi, ça prouve bien que c'est mental, parce que s'ils sont capables de faire ça en Ligue des Champions.
Est-ce que sur la scène européenne, la fameuse musique qu'on entend nous souvent de la Ligue des Champions, est-ce que là, il y a un surcroît de...
Bon, on s'est fait surprendre en championnat, ils perdent un match comme ça, mais est-ce que là, on sait ce qu'on risque et ce qu'on joue,
Oui, après, alors oui, déjà, quand on joue les matchs de Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil, t'es non seulement transcendé, mais en plus, là, il y a une dynamique à Monaco en Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, t'es invaincu, t'as la possibilité de te rapprocher vraiment et quasiment de te qualifier. Quand tu joues Bologne, tu te dis, bon, bah, c'est quand même à notre portée, et même si c'était pas un match aussi facile que ça, derrière, ils ont... Avec, tu vois, un peu de réussite et toujours garder dans l'esprit que tu peux faire la différence jusqu'au bout, bah ce but-là répond à tout ça et franchement, il mérite. Il n'y a pas de vol. Quoi.
Équipe assez jeune. Moi, j'adore Akliouch, Ben Seguir. Hier, Golovin était là. Ils ont perdu Balogun. Voilà, je dis ça parce que quand d'un côté tu perds Ramos, on a l'impression que c'est une catastrophe industrielle. Ils ont perdu Balogun. C'était lui numéro 9. Mais parce qu'il y a un autre attaquant qui s'appelle Mbolo, mm-hmm. et ils le font jouer et il a du talent. Il est Mukina aussi. Donc à 18h, il a prévu aussi un groupe très large, un groupe qui a énormément de qualité, qui est jeune également. Hier, ils ont pas, de toute façon, on ne va pas se mentir, ils n'ont pas fait un grand match du tout. Hein.
Non, bien sûr.
Mais ils ont gagné
non.
à Bologne. Ils avaient perdu contre Angers.
Ça peut arriver. Oui.
Grosse, Angers, il n'y avait rien du tout. Mais là, c'est
contre-performance.
Le côté psychologique où tu es avant Ligue des Champions, où inconsciemment, tu sais que tu as quand même ton objectif là. Il te reste très peu de points à prendre pour être quasiment qualifié. Ouais, donc,
Eric,
du coup,
je pense que Monaco, ils visent les 8 maintenant. Il faut qu'ils visent les
8. Ils ont 10 points.
Ah ouais, oui, 10 points sur 12.
Il reste quoi, 4 matchs?
Ouais, mais après, ils ont bien fait de prendre leurs points maintenant. Ouais, parce que ce qui va arriver, c'est qu'un Benfica, Arsenal, Aston Villa, l'Inter.
Ouais, c'est
plus costaud.
Mais Bruno, on imagine que tous les clubs font ça, quoi, en regardant.
Oui, mais comme on n'a pas de vécu par rapport à cette nouvelle formule, tous les points qui ont été pris à la 4e journée, c'est bien, mais on n'est qu'à la moitié avec un mi-parcours. Et il peut se passer encore beaucoup de choses. Il y a encore 12 points à prendre après cette journée.
Mais Benfica, c'est énorme. Vraiment jouable.
Oui, je pense aussi.
En plus, c'est qu'une approximation. C'est-à-dire que là, tu imagines, tu dis, bon, 10, 12 points, ça te suffit, mais on ne sait pas si ça va suffire.
Non,
vraiment.
Mais non, on est un peu effectivement dans les spectatives.
Ouais,
là,
c'est des projections.
Bon, en tout cas, bravo Monaco sur le podium jusqu'à ce soir, on verra.
Ouais, franchement, ouais.
Et vraiment,
la gestion des mecs, franchement, il est bon.
Pour les Lillois, alors pas de victoire. Certains supporters lillois dans cette rédaction en ont un peu pris ombrage, mais pourtant, une fois encore, les hommes de Bruno Genesio se sont quand même surpassés. Rappelons-le, très absents au coup d'envoi, et pas des moindres quand même. Et ils ont tenu en échec la Juventus de Turin de Thiago Motta. Est-ce que pour vous, c'est un bon résultat, Bruno?
Ah ouais, c'est même un très bon résultat parce que.
Alors Genesio, on se dit mince, il aurait voulu aussi accrocher la Juve, mais bon.
Il fallait pas dire justement parce qu'ils ont battu le Real Madrid, qu'ils ont battu l'Atlético, qui vont forcément battre la Juve. Et forcément, c'était un piège. Et moi, je trouve qu'ils l'ont bien pris. Déjà, en ouvrant le score, et c'était pour moi le plus important, parce qu'après, on sait que la Juve, quand ils ont le ballon, ils sont un peu moins intéressantes, un peu moins performantes. C'est une équipe qui aime bien la transition, qui aime bien contrer. Et là, avec la possession, ils n'en ont pas fait grand-chose. Mais aussi, ils ont quand même quelques talents individuels qui sont au-dessus de par rapport aux Lillois. Donc, non, c'est un très bon résultat, ce point. Et c'est ce qu'il fallait prendre par rapport... Là, pour le coup, Lille, eux, ils doivent clairement viser la place dans les huitièmes directs parce qu'ils ont fait le plus dur. Là, ils ont joué les plus gros. Maintenant, il faut essayer de récolter quelques points à droite à gauche.
C'est fou. Hein. Mais c'est vrai que hier, en plus, c'est pratiquement le joueur le plus expérimenté qui fait une énorme erreur dans la surface. Ça leur coûte un pénalty. Sinon, peut-être qu'ils vont aussi gagner le match en souffrant parce que Lille, ils font quand même rien dans la facilité. Ouais. Mais du coup, avec tous ces blessés, on découvre des joueurs. Sarraoui, hier, a fait un gros match. Boadi, moi, je suis totalement fan. Hein, je dois le dire.
Moi, j'adore.
Ce gamin,
super
il a 17
joueur.
Ans. Je le trouve exceptionnel. Ouais, ouais. Je ne sais pas combien de temps ils vont le garder. Mais voilà, Angel Gomez qui cartonne maintenant en sélection même en Angleterre. Ça, c'est tout le talent aussi de Bruno Genesio. Et ça veut dire qu'on a aussi des entraîneurs en France qui font du très, très bon boulot. Et là, ça travaille bien et c'est plaisant. Et hier, ils font un très bon match, ils font un partout. Ouais. Moi, je dis bravo.
Là, pour le coup, c'est vrai que les entraîneurs français, on les a souvent décriés parce qu'il suffit de regarder à l'étranger, en Europe, hein, il n'y en a quasiment pas. Et là, pour le coup, on a deux entraîneurs, Icroix et Bruno Genesio. Ils arrivent à transmettre quelque chose à leur équipe, arriver à leur faire croire qu'ils peuvent jouer comme des grands et jouer leur football et l'imposer. Et c'est ce qu'ils font, quoi. Genesio, franchement, sur ce coup-là, il est quand même fort parce que les gros morceaux qu'il a eu face à lui et jouer de cette manière-là, même s'ils ont eu un peu de chance, même s'ils ont un peu de réussite par moment.
Mais tu perds en Sporting, on a vu ce que fait Marseille et Sporting.
Voilà, exactement.
Ils sont devant.
On la provoque, la chance aussi.
Exactement.
On le sait. Hein. Bon, voilà, en tout cas, pour ce qui est de cette équipe de Lille et qui, donc, elle aussi, se retrouve plutôt bien en bonne posture pour la suite. Allez, on continue parce que là-bas, par contre, ça s'est mal passé. Mmh.
sur la tête de Malik Thiou et l'Allemand qui marque. Première situation, Pulisic passeur, Thiou buteur. Le Real est mené.
Coge carrera Vinicius, para, le pega.
Vinicius, c'est parti. Et c'est parfait, c'est piqué. L'égalisation de Vini Junior. Madrid 1, Milan 1.
3-1 del Milan con Reinders. M'a fatto tutto
le sourire de l'international néerlandais. Le break est fait. Madrid est KO. Et le Milan s'amuse sur la pelouse du Bernabeu.
Real Madrid 1, Milan 3.
3-1 del Milan sulla Real Madrid.
Le Real ne répond plus.
Ils voulaient relever la tête. Ils ont encore coulé sur leur pelouse hier soir, les Merengues, sifflés par le public de Bernabéu après la gifle administrée donc par les Rossoneri. Ça fait 15 ans que cette équipe ne battait pas le Real sur sa pelouse. Alors évidemment, c'était un autre temps, hein, 2009. C'était, mais bon.
C'était pour honorer Ancelotti.
Exactement. Qui a une si longue histoire avec ses deux clubs en plus. Mais l'équipe donc de Paolo Fonseca, qui parfois est très contestée, Matteo nous le dit, du côté de Milan, eh bien là, ils ont enfoncé le Real Madrid. Carlo Ancelotti ne peut que constater les dégâts et constater surtout l'impuissance de son armada.
La réalité, c'est qu'il nous manque quelque chose sur le terrain. L'équipe n'a pas su montrer une bonne version d'elle-même, en particulier lors des deux derniers matchs, et il est impératif d'améliorer cela. En ce moment, la préoccupation est palpable. Les prochaines nuits vont être longues, mais c'est un passage obligé. Il faut penser collectivement, se concentrer sur les améliorations nécessaires et retrouver cette solidarité qui a longtemps fait notre force, mais qui nous fait défaut aujourd'hui. 9 buts encaissés lors des derniers matchs, c'est trop pour une équipe comme la nôtre, bâtie sur la cohésion. Et c'est là le cœur du problème.
Alors, on a vu un entraîneur, bon, c'est pas du genre très expressif sur le banc, notre cher Carlo Ancelotti. Mais là, on a quand même vu un entraîneur avec un visage particulièrement sombre et fermé. 2 défaites en 4 journées, alors qu'il y a 3 matchs à domicile pour cette équipe. Là, c'est quand même. Ils ont encaissé 9 buts en 3 matchs, hein, si je ne me trompe pas, entre le 4-0. Machin. Bon. Des failles surtout, plutôt, disons, en défense et en milieu de terrain. Tchouaméni sifflé aussi. Elle est où la solution, Bruno, pour cette équipe?
Tu as 20 minutes là-bas.
Avant de trouver la solution, il faut regarder où sont les problèmes. Mm. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe. Et c'est assez
extraordinaire. Il y a des absents aussi.
Il y a des absents. Il y a surtout eu un départ important, celui de Toni Kroos.
Bien sûr, mais il y a Alaba qui n'est pas là quand même.
Parce que moi, je crois que la grosse erreur de Florentino Pérez, c'est qu'il a complètement changé l'équilibre de son équipe. Alors, il y a Kylian Mbappé, qui n'est absolument pas le fautif de tout ce qui se passe au Real Madrid aujourd'hui.
Ah, pour moi, David Finzel sera soulagé.
Les problèmes sont... Non, mais Ancelotti l'a dit, il y a un problème de cohésion, d'équilibre, ils encaissent beaucoup de buts.
Oui,
il y a un problème au milieu de terrain.
De solidarité.
Mais néanmoins, d'état d'esprit aussi.
Mais néanmoins, l'arrivée d'Mbappé, elle a un peu changé la donne dans l'équipe. Aujourd'hui, celui qui est sacrifié, c'est Bellingham, qui était l'un des hommes forts la saison passée. À la même époque, l'année dernière, il remportait le Classico quasiment à lui tout seul en marquant 2 buts.
C'était le meilleur joueur d'Europe l'année dernière, cette époque.
Et aujourd'hui, il est baladé à droite, à gauche, bref, et du coup, il est perdu.
Et on Ils sont tous un peu perdus sur le terrain, d'ailleurs.
Ben oui, mais quand vous sortez Kroos de l'équation, Bellingham, vous le baladez, faire un bouche-trou, et qu'ensuite, vous avez Mbappé, qui n'est absolument pas un avant-centre, on est tous d'accord là-dessus, et qui, du coup, on voit bien
Benzema,
qu'avec Vinicius... Franchement, quel est le club au monde qui a l'un des meilleurs joueurs attaquant gauche, se dit cet été, je vais aller chercher un joueur qui est bon sur le côté gauche quand il revient sur son pied droit dans l'axe parce que ça va nous faire du bien. Ils l'ont déjà ce joueur-là.
En
ou alors faut vendre Vinicius.
Tu fais un choix et tu les fais tourner à deux, tu vas perdre.
Aucun club ne ferait ça. C'est comme si on disait aujourd'hui que Liverpool allait chercher un attaquant droit pour remplacer Mo Salah, qui est toujours très bon.
Donc, il n'y a pas de solution.
Mais non, mais les solutions, il faut trouver l'équilibre.
Aujourd'hui, le Real Madrid
Eric.
J'ai envie de dire, ils ont fait du PSG. C'est-à-dire qu'ils ont ramener un problème à un endroit où il n'y avait pas de problème.
C'est ça.
Je prends l'exemple de Donnarumma avec Navas. Ouais. On avait un gardien extraordinaire qu'on n'avait pas eu depuis je ne sais pas combien d'années. Mm. Et derrière, tu ramènes Donnarumma. Et là, tu crées un problème. Et en fait, derrière, tout part en vrille. Et
ça
là, aujourd'hui, c'est ça. Sauf que ça coûte cher, c'est en train de gangréner un petit peu tout le reste. C'est pas une question, c'est vrai, c'est pas la responsabilité, elle est pas sur Mbappé, parce que Mbappé c'est son rêve de venir tout ça. Sauf que les joueurs sont là,
Mais Ludo, alors quelle est l'alternative au moins Ancelotti?
Ancelotti,
ou pour...
il essaye, c'est-à-dire que
il essaye à chaque match.
Il a commencé la saison avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Là, depuis quelques matchs, Rodrigo est sorti. Hier, Bellingham, il le fait jouer plus haut. Il remet trois milieux de terrain. Il essaye, sauf qu'hier, par exemple, c'est leur plus mauvais match de la saison, parce que même contre le Barça ils font une bonne première mi-temps, ils peuvent mener au score etc, et ils explosent en deuxième, mais au moins ils font vraiment une bonne 45 bonne première. Hier il n'y a rien, c'est-à-dire qu'hier ils n'ont pas de réaction, ils sont menés, il n'y a pas de réaction, ils obtiennent un pénalty, mais Tchouaméni a été, mais je ne l'ai pas reconnu, catastrophique à un point, et à aucun moment les défenseurs Rudiger, Militao, Vázquez, qui est en grande difficulté. La solution, mais je pense que
c'est de remettre l'équipe de base sans Mbappé. Moi, je suis désolé,
ça veut dire que le problème c'est Mbappé. Mais c'est pas possible.
Mais c'est pas une question d'Mbappé. C'est une question de tu t'appuies sur des choses qui marchent.
Ça ne peut pas être l'équipe de l'année dernière puisqu'il n'y a plus Kroos.
Je sais
déjà. Et que Modric est sur la jante quand même.
Tu te débrouilles au milieu de terrain pour mettre soit Kamavinga en plus avec Tchouaméni, ou tu te débrouilles avec Kroos, avec
Modric. Mais ça sera toujours bancal devant. Hier, Thierry Henry il a fait une analyse sur la chaîne CBS, qui est quand même plutôt un supporter d'Mbappé, où il a pointé les manquements d'Mbappé dans le jeu. Et il s'est aperçu que Bellingham, qui jouait en 10 ou en milieu de terrain un peu plus avancé, faisait tous les appels qu'un avançant aurait dû faire. Oui. Et que Mbappé ne faisait absolument, mais jamais dans le match. À chaque fois, il venait décrocher et Mbappé faisait les appels dans la profondeur. Et ça, il expliquait, et Henry, il a joué attaquant gauche, il s'est transformé en avant-centre à Arsenal, donc il sait le problème. Il dit, mais si Mbappé, il fait pas ces appels-là, jamais ça va marcher, jamais il va étirer le bloc, jamais. Et ça, c'est aussi un problème dans l'équipe. Et
non, pour Benzema l'a dit aussi. Benzema l'a dit aussi.
Il a dit
Mbappé n'est pas un numéro 9.
Ouais.
Moi, je pense, contrairement à Eric, que Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, c'est lui qui doit jouer à gauche. Pardon.
Mais
Vinicius est meilleur que lui. Vinicius est champion d'Europe.
C'est peut-être lui que tu mets dans l'axe.
Tu l'annonces comme ballon d'or, Vinicius, et tu veux mettre Mbappé à sa place. Ça n'a pas de sens non plus.
Pour moi, si tu fais venir Mbappé, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est pour qu'il joue à sa place. D'ailleurs, même en équipe de France, il ne joue même plus à sa place. Il faut arrêter de le prendre pour ce qu'il est pas. En plus, après, il faut dire les choses, il est en ce moment en difficulté. Mmh. Voilà, il traverse vraiment, à mon avis, la pire période de sa carrière. Il a marqué en début de saison, mais là, ça fait quand même plusieurs matchs où il est plus efficace. Et je pense qu'il a perdu une vraie confiance qui scie à tous les joueurs. Il est en difficulté.
Là, pour le coup, le problème, il dépasse Mbappé, c'est qu'on revient exactement dans l'effet des Galactiques que Pérez avait lui-même fait entre 2000 et 2006.
Ça,
quand il va chercher des ballons d'or, Figo, Zidane, il a Raoul, Ronaldo. Il a Ronaldo, et il va chercher Beckham. Mmh. Et Beckham, la première année, quand il arrive 2003-2004, c'est une catastrophe. Mmh. Beckham, il peut pas jouer à droite parce qu'il y a Figo. Il le fait jouer dans l'axe, en milieu défensif, c'est une catastrophe. Et pendant ce temps-là, le Real Madrid, pendant 3 ans, il ne gagne aucun trophée. Ni Ligue des Champions, ni championnat, alors qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions
après
2002. Donc,
on est
exactement à ce même point au Real Madrid aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui
colle pas. Peut-être la différence, Bruno, c'est Carlo Ancelotti, parce que pour moi, c'est peut-être le meilleur entraîneur du monde. Alors, vous allez me dire en ce moment,
pour gérer cette situation,
mais je pense qu'il va trouver.
Heureusement que tu l'as.
Je pense qu'il va trouver.
Non. Voilà. Et ben, on verra.
Laissant un peu de temps aussi à Mbappé pour s'acclimater, pour trouver ses marques. Voilà, dans cette position, dans cette équipe, dans
évidemment.
Le vestiaire.
Non, mais tous les grands joueurs, même au Real, ont eu
et
besoin de
temps.
Je pense
que ça va venir. Mais là, c'est sûr qu'hier, ça a été catastrophique.
On va regarder ça à la loupe, ça c'est sûr. Et puis, un autre grand est tombé hier, Bruno. Et alors là, c'était de très haut.
Gyökeres, hat-trick for him. Defeat surely now for City. It is a night to forget, and it's 3 defeats in a row.
Une prouesse de ce joueur suédois à la clause libératoire, on a regardé tout à l'heure avec Pierre Guérin, fixée à 1 million d'euros. L'auteur du hat-trick pour le Sporting Lisbonne. Alors, son prénom, c'est Victor. Après, c'est un peu plus compliqué. Il paraît que ça se dit Jokolesh.
Jokolesh.
Ouais, il paraît qu'on ne dit pas le G. Bon, ouais, c'est d'accord. Du suédois, je n'y connais rien.
C'est Pierre-Olivier qui a dit ça.
On dit aussi Hollande et tout le monde dit Hollande.
Oui, bon, mais on va dire donc Jokolesh, si vous voulez.
C'est un peu plus dur à dire.
Comme les Anglais où il va bientôt arriver en première ligue, donc je dis Gyökeres.
Déjà, vous nous annoncez. C'est ça, oui, 1 million d'euros. Hein. Bon. En tout cas, claque aux Citizens, battu donc sur le score de 4-1. Hein. Il y a un hat-trick de ce joueur et le score est de 4-1. Pénalty raté pour Erling Haaland. Troisième défaite consécutive, on n'a pas l'habitude avec Manchester City quand même, Bruno. Ils ont été déplacés de la première. Non, moi je n'ai pas la question que je pose. Je voulais juste vous demander... Qu'est-ce qu'il arrive aux joueurs de Manchester City ? Ils sont plus premiers de Première Ligue, mais bon.
Il y a beaucoup d'absents. Sur ce match-là, par exemple.
Ils en ont 13, eux aussi.
Il manquait les trois quarts de la défense type. Donc, et pas des moindres, parce que Ruben Dias, Walker, c'est plus que des défenseurs, c'est aussi des cadres et des capitaines. C'est une équipe qui manque de personnalité, qui manque de leader. Kevin De Bruyne revient de blessure. Mais il était encore sur le banc. Rodri, évidemment, qui manque à cette équipe. Ça fait beaucoup de leaders qui manquent. Donc à un moment donné, et comme City est sur un fil depuis le début de la saison, bah ça a craqué au Sporting comme ça a déjà craqué à Bournemouth. Hein, parce que Bournemouth, ils doivent gagner 4-1 et pas 2-1. Ouais. Et là, ils sont tombés sur une équipe qui en contre avec Gyökeres qui s'est régalé. Après, il y a une question en Angleterre, est-ce que City est en crise ? Parce qu'ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives.
Moi, j'avais envie de vous poser une question, c'était autour de Pep Guardiola. Mais alors, en parallèle avec Klopp, je ne parle pas de crise ni rien, mais Klopp a très bien expliqué...
L'usure.
Alors, fin de cycle, ouais, peut-être, l'usure, ouais. Mais surtout l'usure mentale, ouais, parce que sûr. C'est ça qui fait que Klopp quitte.
Ça fait depuis 2016, 9 ans, donc 8 ans.
Oui, il va être dans sa deuxième année. C'est à peu près comme Klopp. Ouais. Et je me dis,
il est en fin de contrat.
Est-ce que même Guardiola, qu'on met au top du top des entraîneurs, lui aussi subit un peu cette usure, je dirais, mentale avant de savoir.
Moi, je suis pas sûr parce que 3 défaites consécutives, déjà, c'est 3 défaites dans 3 compétitions différentes. Donc, ça n'a pas le même impact.
Ouais, mais ça reste 90 minutes, un match de
foot. Non, mais ça a moins d'impact parce que la défaite en Ligue des Champions, elle a peu de conséquences. La défaite en Coupe de la Ligue, elle a rangé City parce qu'il s'élimine une compétition. Donc, ça a moins d'impact et moins de conséquences que si c'était 3 défaites consécutives en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Et puis surtout parce que c'est déjà arrivé. L'année dernière, on l'a oublié, mais en séquence en novembre, ils ont 3 défaites en 4 matchs. Déjà à l'époque, on disait c'est la crise. Est-ce que Guardiola, qui sortait
crise,
du triplé, on disait est-ce que c'est l'usure ? Est-ce que c'est une fin de cycle ?
Après, et en fait, ils ont comprendre hein, qu'il y ait de l'usure.
Et en fait, ils ont enchaîné. Mais l'usure y en... moi, je pense qu'il n'y en a pas parce qu'il a une telle exigence. Après, il y a des questions sur le recrutement qu'ils ont fait.
Ouais, c'est ça,
ils ont perdu Julian Alvarez, ils ne l'ont pas remplacé. Ils ont perdu Oscar Bob qui allait jouer dans un poste d'attaquant qui s'est blessé très rapidement. La blessure de Rodri, elle est majeure et surtout, il n'avait même pas remplacé avant même qu'il se blesse, ce qui est pour moi une erreur majeure. Et en plus, De Bruyne n'est pas là. Donc, ça fait beaucoup d'absences majeures qui peuvent expliquer ces résultats en dents de scie. Mais on n'est qu'au mois de novembre. Et moi, je pense que City, ils seront dans la course au titre et ils seront qualifiés pour les 7e ou les 8e de finale. Non, et ils seront un favori de la Ligue des Champions.
Ouais, mais enfin, bah,
après, quand regardes... Haaland qui rate un pénalty, Eric.
J'étais surpris de la façon dont il l'a tiré parce qu'il a quand même, il a quand même mis une mine alors qu'en plus, il était déjà à contre-pied. Donc, il avait juste à la mettre au fond.
Il tire rarement.
Et là, c'est bizarre, qu'il frappe aussi fort là.
Ouais, je sais pas. Il tire son style quand même, il est pas, c'est pas.
Pas forcément à chercher la lunette, tu vois.
Preuve de finesse.
Je sais pas, c'était bizarre. Mais après, quand on regarde la physionomie des matchs de ils ont 90% du temps le ballon, ils ont toutes les occasions quasiment, mais derrière. Donc, sauf que là, c'était quand même criant. T'en prends 4 contre le Sporting, ils ont quasiment 4 occasions. Et tu te dis, mais c'est pas possible.
Ils ouvrent le score. Mais
en plus, ils ont au bout de 5 minutes.
Et là, tu dis, ça explose en quelques minutes, ça explose au retour des vestiaires. Et après, les buts de Sporting.
C'est super bien joué.
Les deux buts du Sporting en début de seconde période, ils sont exceptionnels. Ils marquent 19 secondes après le coup d'envoi de la seconde période et 22 secondes. Ils obtiennent le pénalty après le coup d'envoi du but qui était inscrit par le Sporting. Donc il y a une vitesse dans leur jeu qui est exceptionnelle. Après, ce qui se dit en Angleterre et à City, c'est comme Walker n'est pas en forme depuis le début de la saison, qu'il a quand même 34 ans, et que c'est leur défenseur le plus rapide, c'est souvent lui qui rattrapait le coup. Quand il joue très haut comme ça, parce qu'il joue comme ça City, ils jouent souvent très haut, ils sont quasiment dans les 30 mètres adverses, et à chaque fois Walker récupérait par sa vitesse les contres adverses. Là, il n'est pas là.
Et le jeune
il est en forme.
Bruno, qui joue en défense centrale, dont tu vas nous dire le nom.
Bah, du, dont j'ai oublié.
Qui a composé là. Qui,
qu'on n'avait jamais vu. Et qui
a été en difficulté.
Qui a fait une erreur majeure sur le premier.
Ça, c'est aussi le bricolage de ces entraîneurs-là. Pardon de revenir toujours au même, à Luis Enrique et puis aux autres. Mais ces entraîneurs-là, ils adorent bricoler.
Mais c'est Lewis
qui est baladé à droite. Il est blessé en défense.
Je ne sais pas.
Pour sortir, tu dois. Attends, mais à un moment donné, tu es quand même obligé.
Luis Enrique est la choix.
Surtout si tu as des blessés. Non, mais après, c'est. C'est des entraîneurs qui sont là aussi pour sortir
Vardiol qui joue latéral gauche, je aussi pour sortir fait, d'accord, mais enfin c'est pas sa place.
Il joue à gauche à City depuis qu'il est arrivé.
Oui, non, mais bon, c'est pas un défenseur latéral.
On a parlé des perdants, mais
on s'inquiète pas.
Mais justement, quand même, il y a un personnage qui aura rendez-vous avec ses citizens bientôt, parce que c'est l'entraîneur du Sporting qui est sur une incroyable série. Ils sont en tête de leur championnat portugais. 14 rencontres, 13 victoires, 1 nul depuis le début de saison. On le savait parce qu'on parle régulièrement de cette équipe. Un match qui est donc non seulement une victoire mémorable, mais c'était la fin d'une époque. C'était le dernier match de Ruben Amorim sur la pelouse, puisqu'il lui reste un match, mais ça sera Braga dans le nord du Portugal. Donc, bon, il termine ses valises parce qu'il part où ? À Manchester. Alors, pas à City, hein, il ne prend pas la place de Guardiola, mais par contre, il va prendre celle de Erik ten Hag. Heureux quand même, on va l'entendre, Ruben Amorim, heureux de ses 4 ans et demi au Sporting.
Le résultat est trompeur. Nous avons eu beaucoup de chance. Les émotions avec mes joueurs, la façon dont ils ont célébré cette victoire, ces moments passés avec les supporters resteront à part, bien sûr. J'emporte ces souvenirs avec moi en Première Ligue. Lorsque je serai en Angleterre, ça sera un environnement différent, une pression différente, mais j'essaierai de rester le même. Ça me plaît beaucoup, vraiment, et je suis prêt à relever ce défi.
Very fun and I'm ready for the challenge.
Il a déjà bien commencé. Il a
ils se sont parlé
City.
D'ailleurs. Je sais pas ce qu'a dit Pep. Non, mais c'est vrai, il lui a dit quelque chose dans l'oreille. Je sais pas ce qu'il lui a dit.
Il a dit rendez-vous
c'était
bientôt.
Drôle,
là,
ouais. C'est le 15 décembre, je crois.
Non, mais c'est incroyable. Je crois qu'on n'a jamais vu un entraîneur arriver déjà en héros dans un club sans avoir été sur le banc de ce club.
C'est incroyable.
Parce que là, il a fait la soirée des supporters de United. C'était exceptionnel. Mais moi, je trouve ça triste. Franchement, je trouve ça triste parce
qu'il
part
de qui part du Sporting
au ouais, milieu de la saison.
Mais ça fait longtemps qu'il voulait partir.
Mais
murmurait
son
nom
à Liverpool. Il a dit, moi, je voulais partir, mais à la fin de la saison. Et on m'a dit, il n'y a pas le choix. C'est maintenant ou jamais. Donc forcément, quand l'occasion se présente, c'est difficile de la refuser. Mais moi, je trouve ça pas normal, en fait, qu'on autorise un entraîneur à partir de ses fonctions en plein milieu de saison, parce que avec le Sporting, ils sont leaders du championnat du Portugal, ils sont champions en titre. Ils sont deuxième ou troisième de Ligue des Champions avec 10 points sur 12, avec franchement une équipe qui peut faire beaucoup de mal en Europe cette saison, qui est taillée pour briller en Europe. Et donc, il y a peut-être un parcours à faire avec ce club-là et aller au bout de l'histoire avec le Sporting. Et malheureusement, dans ce sport-là, ce milieu-là, c'est que
Bruno,
les clubs les plus riches...
Vous connaissez les clubs de la Première Ligue.
Mais oui, mais les clubs les plus riches, quelque part, ils faussent l'équité sportive de la compétition.
Et c'est nouveau, ça ?
Non, mais il faut s'indigner, il faut le déplorer.
Nice, c'est peut-être
pas normal.
Enfin une très très bonne nouvelle pour Manchester United, la meilleure nouvelle depuis très très longtemps.
Peut-être.
Parce qu'on se dit que peut-être. Si lui n'y arrive pas, alors ça va être.
On s'est dit ça pour Ten Hag. Hein.
Exactement.
Ouais, après, Ten
Hag, avant qu'il arrive, Ten Hag, c'est un entraîneur qui brille sur la scène européenne, en Ligue des Champions, qui a une vraie méthodologie et un vrai jeu offensif, qui est capable de faire jouer les jeunes, de les faire progresser. Donc le CV, c'est exactement le même. Et il s'est perdu à United. C'est un club particulier, United. C'est devenu un club particulier.
Oui. Avec quand même les nouveaux actionnaires sur le dos, avec tout ce qu'il y a.
Mais je suis d'accord, ça a l'air d'être un super entraîneur. Après, lui, il le disait aussi, hein, c'est une chose de jouer bloc défensif avec le Sporting face à City en Ligue des Champions ou au Portugal, parce qu'on est le Sporting. Mais à United, on attend à ce que vous preniez le jeu en compte, que vous ayez 60% de possession, que vous attaquiez sans arrêt. Et c'est peut-être pas sa philosophie.
En tout cas, donc, c'est l'école portugaise des entraîneurs. On peut penser quand même, il y a des grands noms. Il y a eu Mourinho, mais il y a eu le Mourinho 2, celui de Marseille, Villas-Boas. Ouais. Et puis, il y en a d'autres des entraîneurs.
Alors attention, parce que lui, on lui a donné le
Fonseca.
Surnom. On a donné à Amorim le surnom de Special 2.0. La dernière fois qu'on a fait ça avec un entraîneur, c'était justement Villas-Boas, Special 2. Il s'était complètement scratché à Chelsea.
Bon, alors ça on oublie ce surnom et on le laisse
Mais ça va être intéressant quand même. Ouais. Ça va être intéressant quand même de voir.
Ah oui. Non, mais ça va être très, très intéressant, effectivement.
Il n'y a pas de second à Mourinho, il n'y en a qu'un.
Messieurs, bonne soirée devant les matchs qui nous promettent encore du spectacle dans cette Ligue des Champions, Nous, on sera rediffusé tout à l'heure. Mais on se donne rendez-vous demain pour le bilan de cette quatrième journée de Ligue des Champions. Merci à tous.